Merci Pierre, son équipe. C'est beau chant. Tout genou fléchira. Quelle belle espérance et quelle grâce d'être capable aujourd'hui volontairement de fléchir le genou devant le Christ et de confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors bonjour à vous tous, bon matin, bon dimanche. Et si vous êtes ici parmi nous ce matin, des visiteurs, et vous nous visitez pour la première fois, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et notre espérance que c'est que vous reviendrez aussi. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Notre texte pour ce matin, c'est les versets 28 à 32. Nous sommes en train d'étudier le sujet d'Israël, le peuple juif, la nation élue. Et vous savez, quelqu'un pourrait bien se demander pourquoi passer tant de temps sur ce sujet. Qu'est-ce que ça change dans ma vie, comme on dit souvent? Alors, j'ai réfléchi là-dessus et je vous partage ce que j'ai trouvé. Le rapport entre Dieu et Israël nous donne une meilleure révélation de sa personne que le rapport entre Dieu et les païens, les non-juifs. Alors, vous voulez connaître qui est Dieu, comment il est, comment est-ce qu'il agit? Alors, étudiez comment Dieu agit avec Israël. La preuve, c'est que l'Ancien Testament est plus volumineux que le Nouveau Testament. Nous avons 39 livres comparés à 27. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament consacre 4 livres, les Évangiles, pour nous parler du plus grand juif, le plus grand israélite qui a jamais vécu, le Seigneur Jésus-Christ. Dans les psaumes, le plus long livre de la Bible, 150 chapitres, Israël, Zion, Jérusalem, sont mentionnés plus souvent que les nations, les païens. Dans le livre du prophète Ésaïe, le deuxième plus long, 66 chapitres, on trouve Israël partout. Dans toute la Bible, Israël ou Israélite est mentionné plus que 2000 fois. J'ai arrêté de compter. Sixièmement, Dieu se plaît à se faire appeler le Dieu d'Israël. Le plus grand livre du Nouveau Testament que nous sommes en train d'étudier est Romains. Paul va consacrer 3 chapitres sur 16. Si on oublie le 16e qui est les salutations, 3 sur 15. Un cinquième du livre pour parler d'Israël. Le plus grand évangéliste, l'apôtre Paul, il avait un ministère incroyable parmi les non-juifs. Et pourtant, il y avait un fardeau incroyable pour ce peuple. Romains chapitre 9 nous dit, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères, les Israélites. » Et vous savez, ce fardeau-là a été engendré par le Saint-Esprit. Et ça nous démontre aussi le fardeau que Dieu a pour son peuple. La culmination neuvièmement de l'histoire gravite autour de la nation d'Israël et même dans l'éternité. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le joyau, ça va être la nouvelle Jérusalem. Je ne suis pas en train de dire que les nations ne sont pas importantes. C'est pas ce que je suis en train de dire, ni même l'Église non plus n'est pas important. Ça, c'est le contraire aux yeux de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, nous ne pouvons pas négliger ce peuple-là, les Juifs, ni le rayer de la carte, ni l'envoyer aux oubliettes. Et pourquoi Israël est si important? Parce que l'histoire d'Israël et la nature de Dieu sont indissociables. Si Israël tombe, de façon irrémédiable, la nature de Dieu est sérieusement ternie. Bref, on pourrait dire que Dieu a manqué son coup. Ses belles promesses à cette nation n'étaient que la poudre aux yeux, comme on dit. s'il n'a agi cela avec son peuple, la nation élue, si Dieu laisse tomber Israël complètement, est-ce que nous pouvons lui faire confiance dans ses agissements avec nous, l'Église? Alors ça, c'est le pourquoi le Romains 9 disait 11. Ce n'est pas une parenthèse. Paul veut démontrer clairement à travers la mise à l'écart et la restauration d'Israël que Dieu est entièrement digne de confiance. Alors, juste un petit résumé. Ce que nous avons déjà vu rapidement, pour ceux qui se sont joints à nous récemment. Chapitre 9, Israël est mis à l'écart. Chapitre 10, c'est à cause d'incrédulité. Chapitre 11, alors nous avons ce texte que nous sommes en train d'étudier. Cet écart est partiel. La mise à l'écart d'Israël est partielle. Elle est aussi passagère. C'est pas permanent. Elle a été planifiée. Ça n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu a planifié cela dans un but d'amener le salut accessible aux païens et de faire en sorte que les Juifs, en voyant justement les païens profiter du salut, soient excités à la jalousie pour désirer la même chose. Nous avons vu aussi qu'elle pourrait être problématique parce qu'on pourrait avoir l'idée que bon, Dieu a mis les Juifs à l'égard et commencé à s'enorgueillir. Paul dit non. Faites attention, ils vont être regreffés sur leur propre olivier. Et après cela aussi, nous avons vu dans la restauration que c'est pour la prééminence de Dieu. Tout cela a été pour que Dieu soit glorifié. Et à travers cela, la dernière fois, nous avons vu des attributs à travers justement la restauration d'Israël. La restauration d'Israël fait briller justement les attributs de Dieu. Nous avons déjà vu la bonté de Dieu. Combien Dieu est bon pour restaurer Israël et de le remettre à sa place première. Quelle confiance qu'il fait dans cette nation. Et aussi, nous avons vu la souveraineté de Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu va contrôler le camp. Et le texte nous dit quand la totalité des païens sera entré, quand l'Église va être complétée, alors Dieu va justement reprendre ses relations directes avec Israël. Et comment le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. Ah, que c'est des beaux textes. Quels beaux attributs, la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Alors lisons notre texte pour ce matin, Romains 11, 28 à 32, qui va nous permettre à découvrir aussi d'autres attributs de Dieu que la restauration d'Israël nous révèle. Alors, Romains chapitre 11, au verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils, les Juifs, sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, la restauration d'Israël est un puissant témoignage à l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu, qui veut dire simplement que Dieu ne change pas, qu'il est constant. Le texte dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et ça, c'est tellement un contraste. Dieu et les hommes, nous les fils de l'homme qui sont souvent si vacillants, si inconstants et si changeants. Dieu immuable. Et cela est exemplifié pour nous dans notre texte, si vous regardez le verset 28 maintenant. Vous pouvez dire ceci en ce qui concerne l'Évangile. Ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur part. Et il ici, comme je dis, sur refaire aux Israélites, aux Juifs, la nation d'Israël. Mais qu'est-ce que Paul veut dire par cela? Pourquoi est-ce que Paul maintenant décrit les Juifs, Israël, la nation d'Israël, comme ennemis de Dieu? Comment sont-ils devenus les ennemis de Dieu? Y avait-il un moment dans leur histoire où est-ce qu'ils n'étaient pas les ennemis de Dieu? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent maintenant, que cette relation entre Israël et Dieu se détériore, change, faisant en sorte qu'à l'époque de Paul, Paul doit dire qu'ils sont les ennemis de Dieu? Alors pour répondre à cela, il faut retourner à la source, à la naissance de la nation. Vous connaissez l'histoire, l'Exode, où est-ce que le peuple est délivré d'une dure servitude, l'esclavage en Égypte, après une confrontation avec le pharaon, et Moïse est allé voir le pharaon. Le mot d'ordre, c'était toujours « laisse aller mon peuple ». Ça, c'était le mot que Dieu avait dit à Moïse. « Tu iras voir le pharaon et tu lui diras « laisse aller mon peuple, mon peuple ». Et vous savez l'histoire, Pharaon, il s'est entêté, finalement, dur, a mis sa main. Et avec une grande délivrance, le peuple est parti de l'Égypte. Et une fois délivré, le peuple avait démontré sa reconnaissance envers Dieu. Pas besoin d'y tourner, mais Exode chapitre 15, c'est un beau chapitre, un beau texte, une partie. Il y a une autre partie qui n'est pas si beau, là. Mais au début, c'est très beau. J'appelle ça la lune de miel dans la relation entre Israël et Dieu. La lune de miel. Parce que là, dans Exode chapitre 15, verset 1, nous lisons ceci. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Remarquez bien à l'Éternel. Quand il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Verset 2, l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Ça, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Je l'exalterai. Quelle belle parole. Hein? La lune de miel, tout est beau entre Israël et Dieu. Et j'ai dit ceci, c'est le chant exprimé par les voix mélodieuses. Ça a dû être tout un choral hein, dans des ans, les monts qui chantaient. Mais, 22 versets plus tard, la situation change dramatiquement. Le peuple a marché 3 journées dans le désert sans trouver l'eau. Et que dit le verset 24? Le peuple murmura contre Moïse, contre celui que Dieu avait établi comme leur leader, leur chef, et murmurait contre Moïse, revenait au fait, murmurer contre Dieu. Alors le chant se change. Maintenant, c'est la chicane. Et au lieu d'avoir les voix mélodieuses, nous avons les voix murmurantes. Que boirons-nous? On va mourir ici dans le désert. Et cela ne cesse de détériorer. Exode chapitre 17. On est dans le même livre. On est Exode 15. Après, si on va dans 17, on lit « Le peuple ne trouva pas d'eau à boire encore » et cette fois-ci, c'est plus que murmurer. Le peuple chercha querelle à Moïse. Vous savez la suite, Dieu intervient, Moïse va frapper le rocher, l'eau en sort, mais Moïse va donner à ce lieu le nom de Massa et de Meriba, ce qui signifie « tentation et contestation ». Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté, non pas Moïse, mais l'Éternel, en disant, l'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Et qu'est-ce que nous avons ici? La contestation exprimée par les voix méfiantes. Méfiantes. Et ça continue. La dégringolade, Exode 32, on est encore dans Exode. Le peuple va tomber dans l'idolâtrie. Ils vont fabriquer une idole, ils vont se prosterner devant l'idole, le veau d'or, disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et Dieu, que pense-t-il de cela? Ces paroles à Moïse, le peuple s'est corrompu. Et quel mépris pour Dieu, hein, de prendre un veau d'or, un morceau de métal, et ils vont échanger Dieu, le vrai Dieu, pour une idole, et se prosterner, adorer ça. Morceau de métal qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas. C'est la corruption. Et cette fois-ci, c'est les voix méprisantes. On méprise Dieu. En attribuant justement leur sortie d'Égypte à un veau d'or. Nombre 16, si tu as c'est encore plus laide. Cette fois-ci, c'est la confrontation, pas entrer dans les détails, mais là, vous avez une révolte. Vous avez Corée, Datan, Abiram. Là, ils vont chercher 250 hommes des enfants d'Israël, et pas n'importe qui, c'est des hommes de renom. C'est des leaders en Israël. Et ils vont se soulever contre Moïse et Aaron, au fait contre Dieu, parce qu'il va remettre en question l'autorité de Moïse. Et si vous lisez le reste du chapitre, vous constaterez que cette confrontation est animée par quoi? Le mécontentement. Alors, le chant a été remplacé par la chicane, la contestation, la corruption, la confrontation. Et finalement, on arrive dans les évangiles. Qu'est-ce que nous avons? La crucifixion. Et là, c'est le rejet carrément de Dieu. La crucifixion réclamée par les voix meurtrières. Vous avez l'histoire dans Jean chapitre 19. Pilate va amener Jésus devant les Juifs. Il va leur dire, « Voici votre roi. » Et le peuple va crier, « Haute, haute, crucifie-le. » Et Pilate va leur dire, « Crucifierai-je votre roi ?» Ils vont répondre, « Nous n'avons de roi que César. » Vous voyez la progression? Ils ont commencé en chantant. Ils ont fini en crucifiant le Fils de Dieu. Et voilà maintenant Israël, les ennemis de Dieu, haïssez l'Évangile. Haïssez aussi les messagers de l'Évangile. Rapidement, dans Actes chapitre 7, ils vont lapider Étienne. Actes chapitre 13, Paul et Barnabas vont prêcher l'Évangile à Antioche et les Juifs. Le texte nous dit, rempli de jalousie, s'opposer à ce que disait Paul et le contredisait en l'injuriant. Verset 50, les Juifs vont provoquer une persécution contre Paul et Barnabas et vont les chasser de leur territoire. Actes chapitre 14, verset 2, Paul et Barnabas vont prêcher à Icône. Une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Il y a des résultats, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitant et aigrir les esprits des païens contre les frères. Et vous avez un texte dans 1 Thessaloniciens 2, 14 et 15 qui va donner justement un résumé de cela. Paul dit ceci aux églises, vous avez souffert de la part des Juifs, écoutez bien, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Catégorie. Alors, des Juifs, ennemis de Dieu, le texte nous dit, ennemis de l'Évangile, ennemis du peuple de Dieu. Et la question se pose maintenant, comment Dieu va-t-il réagir dans une telle situation? Quelle est son attitude à l'égard de ceux qui sont devenus ses ennemis et aussi l'ennemi des ennemis de l'Église? Si vous regardez le texte au verset 28, Romains 11, 28b, ils sont aimés. Ça me dépasse. Ils sont aimés à cause de leur père. Quelle belle attitude. Dieu a toutes les raisons pour couper de relations avec ce peuple-là, peuple au cou raide, un peuple rebelle, pour les rejeter, pour les bannir. Et le texte nous dit, ils sont aimés à cause de leur paille. Continue à les aimer. Deux textes pour appuyer cela, Deutéronome 10, 15. Moïse fait un rappel à la deuxième génération d'Israélites. Il leur dit ceci, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Et dans Ésaïe 41, versets 8 et 9, il va dire ceci, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, remarquez bien que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. » Ça, c'est Dieu qui parle. Pourquoi tant d'amour? Pourquoi tant d'attachement à ce peuple-là? Mais le verset 29 nous donne la réponse. Verset Romains 11, 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dans le texte original, le mot don, ça veut dire charisma. Faveur qu'on reçoit sans aucun mérite de sa part. On peut dire grâce. Et l'appel, klesi, ça veut dire une vocation. Appelé à remplir une mission, une vocation. J'aime beaucoup la traduction de Parole vivante qui dit ceci. Dieu, si Dieu dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Parole de vie va dire ceci, il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Alors Israël n'avait rien fait pour mériter la grâce de Dieu. C'était par pure grâce que ni la vocation que Dieu leur avait assignée pour être cette nation glorieuse qui devait servir à glorifier Dieu. Et conséquemment, cette nation ne pouvait rien faire pour les perdre. Ni le don, ni la vocation. Certes, pour le moment où est-ce qu'on se parle, même aujourd'hui, Israël est mis de côté. Mais, bien-aimé, son avenir est glorieux. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit au début, ce texte leur fait briller l'immuabilité de Dieu, Dieu qui ne change pas, qui reste toujours le même, il est constant, il est inchangeant. Je vous donne deux textes, Dieu est constant à sa personne. Malachie 3, 6, il va dire ceci, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Si Dieu avait changé, c'est sûr qu'ils auraient tous passé au cache. Mais il dit, je ne change pas. Jacques 1, 17, quel beau texte qui nous dit que Dieu est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même pas une ombre de variation. Constant à sa personne, constant aussi à sa parole, ce qui sort de sa bouche et à ses actions. Nombre 23, 19, nous avons déjà vu cela la semaine dernière. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est constant, Dieu est immuable. Et j'aime beaucoup l'explication de Stephen Charnock. Ça, c'est un puritain qui a vécu dans le 17e siècle, mais c'est mon puritain préféré. L'immuabilité de Dieu. Il a dit ceci, si Dieu changerait, il faudrait qu'il change pour devenir meilleur ou pire, car tout changement implique une amélioration ou une détérioration. S'il changeait pour devenir pire, ce serait d'être Dieu, parce qu'il ne serait plus l'être parfait qu'il est actuellement. Et s'il changerait pour devenir meilleur, cela voulait dire qu'il lui manquait quelque chose. Et encore une fois, il ne pouvait pas être l'être parfait que la Bible nous présente. Alors Dieu est immuable, il ne peut pas changer. Et quel beau texte dans Hébreux 13, 8, qui en passant, si vous voulez vraiment démontrer à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même. Il est immuable. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une déclaration de la divinité de Christ. Immuable comme Dieu est lui-même. Il ne change pas. Et parce que Dieu est immuable, il ne change pas, il va garder son engagement à l'égard du peuple juif, la nation d'Israël. Cet engagement qu'il a fait avec eux, qui est connu dans les Écritures sous le nom de l'Alliance Abrahamique. On n'a pas le temps ce matin de faire une étude exhaustive de cette alliance, mais j'aimerais juste donner des grandes lignes rapidement. Pas besoin d'y tourner. Mais tout d'abord, cette alliance, l'alliance abrahamique, est citée dans Genèse 12, où Dieu va justement annoncer à Abraham qu'il allait faire une alliance avec lui. Elle est conclue. Dieu passe à l'action. Ils vont faire des choses pour justement conclure l'alliance. Ça, c'est Genèse 15. Elle va être que confirmée. Dieu revient à la charge. Il va parler encore à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il mentionne encore l'alliance. Et les caractéristiques de cette alliance, mais Dieu va dire que c'est une alliance perpétuelle, éternelle. Genèse 17, 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et pas tout, et tes descendants après toi, selon leur génération, sera quoi? Une alliance perpétuelle en vertu, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu Abraham et je vais être aussi le Dieu de ta postérité, la nation d'Israël. 1 Chronique 16, Ésaïe 24, appelle cela une alliance éternelle. Genèse 17 encore, c'est une promesse d'une postérité. Dieu va dire à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Et dans verset 5, il va dire ceci, je te rends père d'une multitude de nations. Alors, c'est perpétuel, il y a une postérité. Dieu aussi va parler d'un pays. Genèse 15, 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, etc. Et dans Genèse 17, 8, Dieu va identifier le pays, c'est tout le pays de Canaan. Promesse d'un peuple aussi, la nation d'Israël, Genèse 12, 2, je ferai de toi une grande nation. Il parle ici de la nation d'Israël qui allait naître à travers justement Abraham. Il va dire, Genèse 17, 6, des rois sortiront de toi. Promesse aussi de la prospérité divine, je te bénirai Abraham, je te rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, c'est l'alliance que Dieu a conclue entre lui et Abraham, et qui aussi était pour la postérité la nation d'Israël. Et c'est seulement la puissance de Dieu qui pouvait justement le rendre cela possible. Mais j'aimerais juste faire une remarque ici. Parce qu'une alliance est un contrat entre deux individus, chacun, est tenu de respecter ses engagements. La question qu'on se pose maintenant, qu'arriverait-il à cette belle alliance, tellement de belles promesses, si Abraham ne respectait pas ses engagements? Est-ce qu'elle serait annulée? Un peu comme quand vous avez un mariage et c'est des engagements, ils ne sont pas respectés, on parle ici de divorce. J'aimerais juste vous faire un résumé rapide de Genèse chapitre 15, parce que c'est là où l'alliance est conclue. Et là, Dieu va parler à Abraham de son alliance. Il va dire ceci. C'est un peu comme on échange les anneaux dans une alliance, dans un contrat de mariage. On va donner une preuve, justement, qu'on s'engage à respecter, justement, nos engagements. Alors, à l'époque, les personnes faisaient aussi quelque chose, un rituel pour dire aussi qu'ils sont engagés à respecter chacun ses responsabilités. Et Dieu va demander à Abraham de prendre des animaux. C'est un peu bizarre, ce n'est pas dans notre culture, pas dans notre temps, mais ça se faisait à l'époque. Il va dire, coupe les animaux, il va dire, prends une génisse, un chèvre, un bélier, une tourterelle, une colombe, et coupe ça par le milieu. Sauf les oiseaux, et place chaque morceau vis-à-vis. Alors, vous avez le génisse coupé en deux, puis un morceau ici, un morceau là. Vous avez aussi le chèvre coupé en deux, un morceau ici, un morceau là. Vous avez le bélier coupé en deux, un morceau ici, un morceau là. Vous avez les oiseaux. Et qu'est-ce que les gens qui voulaient contracter justement une alliance, ils marchaient entre eux justement les animaux coupés. Et il disait, s'ils ne respectaient pas leur engagement, c'est comme si on disait, mais que la même chose nous arrive, m'arrive, quand je suis coupé aussi en deux. Ça, c'est la façon de dire que c'était son aile. Et Abraham, il va obéir à Dieu, il va faire tout cela. Et qu'est-ce que Dieu va faire par la suite? Il va envoyer Abraham au pays des rêves. Le texte nous dit qu'au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et c'est Dieu lui-même, tout seul, qui va passer à travers les animaux coupés. Le texte nous dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fumante, et des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. Et le texte dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Que Dieu ici, là, il fait une alliance avec lui-même. Abraham, il fait dodo, là. Il est endormi. Et Dieu lui-même passe entre les animaux coupés. Ça veut dire que cette alliance-là, c'est inconditionnel, parce qu'Abraham, il n'est pas là. Et aussi unilatéral. Ça dépend uniquement et uniquement de Dieu, son accomplissement. Et cette alliance-là ne peut pas être brisée parce que Dieu est immuable. Et s'il fait alliance avec lui-même, l'alliance va rester toujours inviolable. Parce que Dieu ne change pas. Et tout ce que Dieu a promis à Abraham dans cette alliance va avoir son plein accomplissement dans la restauration future d'Israël que nous sommes en train d'étudier. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et que c'est sécurisant, que c'est rassurant de savoir que Dieu est immuable. J'aimerais faire rapidement une application ici à propos justement du salut. Je ne sais pas si vous avez déjà été troublé, ou même ce matin que vous êtes troublé par cette fameuse question. Est-ce que le salut se perd? Vous savez, il y a des gens qui sont troublés par cela, parce que si le salut se perd, ça doit être, si la réponse est oui, ça doit être terrifiant, agonisant, de savoir que qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? La souffrance éternelle. Mais ce matin, j'aimerais vous rassurer de savoir que Dieu, dans son immuabilité, ne change pas et garde toujours sa parole. Il est fidèle à sa parole. Juste un seul texte, Jean 10, 28. En parlant du salut, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Les dons de Dieu, je leur donne la vie éternelle. En parlant de ses brebis, ceux qui ont cru en lui, et elles ne périront, quoi? Jamais, jamais, jamais. Et qui? Personne ne peut les ravir de ma main, ne les ravira de ma main. Et juste pour être sûr, là, juste pour être sûr, là, même d'un coup qu'on aurait encore des doutes, il va ajouter ceci. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Plus grand que Satan, plus grand que Michael, plus grand que Gabriel, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus clair que cela? La parole qui est sortie de la bouche de Jésus, celui qui est immuable, qui ne change pas, et ce qu'il a déclaré, il va le faire. Salut, donné par pure grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et comme quelqu'un a dit, on n'a rien fait pour mériter le salut. Alors, on ne peut non plus rien faire pour ne plus le mériter. Alors, on reste avec Dieu qui est immuable et quelle assurance pour nous. Deuxièmement, Dieu va restaurer Israël parce que non seulement il est bon, non seulement il est souverain, non seulement il est immuable, mais aussi parce que Dieu est miséricordieux. Et ça, c'est ce que nous avons dans les versets qui suivent, verset 30 et le verset 30 à 32. De même que vous avez autrefois désobéi, à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à Dieu. Qu'est-ce qui revient dans ce texte encore et encore? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et quel bel attribut et quel beau thème, la miséricorde de Dieu. La Bible définit, la Bible online définit la miséricorde comme ceci. Quelqu'un qui a le cœur sensible à la pitié. C'est un synonyme de compassion. Et dans le grec, là, ça dit des tripes. Quelqu'un qui va avoir des sentiments profonds. Les gens qui ont une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et à sympathiser avec eux. Et la Bible est remplie de tellement de beaux textes en ce qui concerne la miséricorde de Dieu. Et j'ai fait un tri ce matin. Psaume 116 au verset 5, l'Éternel est miséricordieux. C'est dans sa nature, il est comme ça. Et juste notre Dieu est plein de compassion. Pas à moitié, il y a trois quarts, il est plein de compassion. Et puisque Dieu est infini, mais ses compassions sont infinies. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va dire à propos de la miséricorde de Dieu? Psaume 136, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Vous lisez le psaume 136, il dit une phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Il dit une phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Il dit une phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Tout de son. Il veut que ça rentre dans le coco. Psaume 5:8, la miséricorde de Dieu est grande. Psaume 57:11, elle atteint jusqu'aux cieux. Psaume 89:3, elle a des fondements éternels. Luc 1:78, elle a les entrailles, elle est tendre, la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas étonnant que dans Psaume 59, le psalmiste va dire ceci, « Je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Et dans l'original, c'est ta miséricorde. Deuxième Corinthiens 1:3, l'apôtre Paul va dire ceci, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il appelle quoi? Le Père des miséricordes. Et vous savez, comme on dit dans le proverbe, « Tel Père, tel Fils. » Alors Jésus aussi est miséricordieux. Et vous lisez les évangiles, c'est tellement touchant de voir comment Jésus est touché par la souffrance des hommes et des femmes. Et je prends quelques exemples ici. Matthieu 9:36, il va voir la foule. Abattue et languissante, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le texte nous dit, Jésus fut ému de compassion. Marc 1:41, il y a un lépreux qui s'approche de Jésus. Les lépreux qu'on avait mis au banc de la société, qu'il fallait qu'ils restent au loin et qui criaient, impur, impur. Et cet homme s'approche de Jésus et dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus fut ému de compassion. Même il va jusqu'à la toucher et dire, je le veux, sois pur. Et cette veuve complètement dévastée, elle a perdu son mari, elle est veuve, mais elle vient de perdre son fils unique. Et là, on la porte en terre, elle est là, elle pleure de choc, de larmes, et Jésus va s'approcher. Ému de compassion, il va toucher de ce cœur, il va ressusciter le jeune homme. Quel sauveur compatissant, ils sont pleins de miséricorde. Et vous savez, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas rester indifférent. Et combien de fois on voit dans les évangiles, quand les hommes s'approchent de Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Ça ne peut pas laisser le Christ indifférent parce qu'il est miséricordieux. Et chaque fois que quelqu'un a exprimé justement ce désir, ce besoin, Christ a toujours répondu. J'aime le texte dans Hébreux 4, 15, 16 pour nous ce matin. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça, c'est le même contexte. Au contraire, il a été tenté comme nous. En toute chose, sans commettre le péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et ce matin, si vous êtes dans le pétrin, si vous avez des difficultés, je ne sais pas quoi, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux. Il nous dit, approchez-vous de moi pour obtenir miséricorde. notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et je termine avec ceci, et voilà que le temps file, mais la restauration d'Israël dans un temps futur va témoigner de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Et Paul va donner deux arguments. Verset 30, les Juifs ont rejeté l'Évangile. Et par ce fait même, le salut est devenu accessible aux païens. Ça, c'est ce qu'on a en Romains 11. 11. Et les païens ont bénéficié de la miséricorde de Dieu. Et en passant, ça devrait nous garder dans l'humilité. On bien sauvé, mais à travers l'incrédulité des Juifs. Verset 31, le salut que nous avons tenu a été planifié pour que cela excite Israël désobéissant à la jalousie, pour que eux aussi désirent le salut et obtenir aussi la miséricorde de Dieu. Alors, que ce soit un ou l'autre, les deux vont venir au salut par la miséricorde de Dieu. Et juste une réflexion sur le verset 32, parce que ça peut porter peut-être un peu de confusion. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ce texte n'enseigne pas l'universalisme. Ça veut dire que tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Mais comme je dis, le texte est en train de dire que d'une manière ou d'une autre, le païen par l'incrédulité des Juifs, à cause que les Juifs ont été incrédules, ou le Juif à cause qu'il est jaloux justement, excité à la jalousie par le salut du païen, tous les deux, Juifs et païens, viennent au salut à cause de la miséricorde de Dieu. Et Paul va dire ceci, « J'étais un homme violent, blasphémateur, mais j'ai obtenu miséricorde. » Et Pierre va dire aussi aux païens, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. » Alors Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Psaume 5, Dieu n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Habacuc 1, 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais le texte soulève deux questions importantes. L'origine du péché et pourquoi Dieu a-t-il permis? Et on ne peut pas donner une réponse satisfaisante à la première question, l'origine du péché. On ne peut pas donner une réponse satisfaisante. Les théologiens ont gratté la tête. On n'a pas de réponse pour cela. Mais une chose qui est certaine, que le fait que Dieu a permis le péché permet à son attribut de la miséricorde de briller. S'il n'y a pas de péché, cet attribut-là, qui est là, là, c'est qui est dans les tripes de Dieu, elle ne peut pas être exprimée. Alors, on ne peut pas comprendre. Paul, il va dire ça dans les textes qui suivent. Vous allez voir ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Les fois, c'est juste incompréhensible. Mais le fait que les hommes sont dans le péché, ça permet à Dieu de magnifier sa miséricorde et de vraiment dévoiler cette belle attribut de sa part. Et le fait qu'il a dit, il a renfermé, le texte, le mot veut dire que ne pas se laisser convaincre. Ça, c'est ce que le mot dit. Ce n'est pas que Dieu activement a renfermé les hommes dans la désobéissance. Dieu n'est pas l'auteur des péchés. Mais le sens de ce mot, ne pas se permettre d'être convaincu. Il a donné sa langue. Et vu que les hommes ont cette capacité de ne pas se permettre de se laisser convaincre, mais quand ils viennent au salut, la seule manière qu'ils sont venus au salut, c'est comment? C'est par la miséricorde de Dieu. Et dans cela, Dieu reçoit toute la gloire. Toute la gloire. Juste deux applications et je termine. Sommes-nous un peuple qui est caractérisé par la miséricorde? Vous savez, pour quelques-uns, c'est bien facile. Même dans Romains 12, vous avez ceux qui pratiquent la miséricorde. Mais pour d'autres, c'est difficile. Et on lutte avec cela. Il y a un beau texte ici dans Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Un jour, là, on a crié au Seigneur. On a crié au Seigneur. Et dans sa bonté, dans sa grâce, il a eu pitié de nous. Alors, ne devrions-nous pas aussi avoir pitié de ceux qui sont dans la souffrance? Et même ceux qui nous blessent aussi, au lieu d'avoir un esprit de vengeance, de rancune, d'amertume, d'être caractérisé par la miséricorde. Et ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, un seul cri sincère du cœur suffira pour le connaître. Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis pécheur. Ça, c'est une prière à laquelle le Seigneur Jésus-Christ va toujours répondre parce qu'il est miséricordieux. Et si ce matin vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous le basez sur le fait qu'il est miséricordieux, il vous répondra, il vous sauvera de vos péchés. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta personne. Combien que tu nous dépasses. Ce Dieu qui n'est pas comme les hommes ni les fils de l'homme. Merci pour ces beaux attributs. Ta bonté, ta souveraineté, ton immuabilité, ta miséricorde. Apprends-nous, Seigneur, à te ressembler. Et si parmi nous, il y a quelques-uns qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu sois miséricordieux à leur égard. On demande ces grâces au nom de Jésus. Amen.